sentir chez soi, dans une région, dans sa famille, dans un milieu. Je me passionne, vous savez, pour ce sentiment d'appartenance dont on a tous fait l'expérience, que l'on parle d'un territoire, d'une communauté, de racines, quelle qu'elle soit. Parce que chez soi, c'est comme si le temps était aboli. On est replongé dans un passé plus ou moins idéalisé, on se projette dans un futur rêvé. Quand on s'y trouve chez soi, on le sait, vous savez, c'est présent, c'est là. C'est comme si ça avait toujours été là et on espère que ça le demeurera. Je pense à un texte qui m'a beaucoup marqué, de la philosophe Simone Veil, où elle explique que l'enracinement, c'est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est l'un des plus dociles à définir, écrit-elle. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Chaque être humain a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. C'est une question que je me suis beaucoup posée et que je vous pose volontiers. Où êtes-vous enraciné ?
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui n'a pas oublié ses racines. Chanteur, souvenez-vous de Et mon père, de Je pars, de So Far Away from LA, photographe, romancier. Sa Bretagne natale apparaît en arrière-plan de son nouveau livre Sans oublier qu'un jour on s'est aimé, en librairie après-demain. C'est l'histoire d'un homme devenu réalisateur qui retrouve la femme qu'il a aimée adolescent, des étoiles, de la nostalgie, du voyage. Bonjour Nicolas Perrac.
Bonjour Augustin.
Merci d'être avec nous ce matin. Au fond, je me suis demandé, vous qui depuis toujours écrivez et chantez, le voyage, le départ, où est-ce que vous vous sentez chez vous ?
Ben, je me sens à Saint-Brice après avoir fait je ne sais pas combien de fois le tour du monde, après avoir vécu un an à New York, 2 ans en Afrique et quasiment 2 ans à Los Angeles. Je me rends compte que mes racines sont à Saint-Brice-en-Coq, c'est-à-dire au cœur du Coglet, entre Fougères et Rennes et à 50 km de Cancale et de Saint-Malo. Voilà.
Oui, c'est vrai. Dans votre livre, Sans oublier qu'un jour on s'est aimé, il est question d'une maison en Bretagne, d'une maison qui est présentée comme un être vivant, doté d'une âme. Et quel lieu est-ce que c'est pour vous la maison ? Vous qui vivez dans la maison de votre enfance en plus.
Quand on a la chance d'habiter la maison que son père a achetée en 58, c'est-à-dire quand j'avais 9 ans, et que le sapin qui est au fond du jardin, il l'a planté, c'était un sapin de Noël, maintenant il fait carrément 50 mètres, et que je l'ai vu grandir, et que cette maison c'est la mienne, je me dis, voilà, c'est un vrai prolongement, c'est comme si j'étais jamais parti de chez moi, et je suis revenu à la maison. Il se trouve que mon père est plus là, mais il est là quand même, voilà, je suis chez moi.
C'est vrai que cette Bretagne, vous l'avez quittée, Nicolas Perrac, pour le Canada, pendant plusieurs années. Pourquoi vous êtes revenu?
Ben, je suis revenu parce qu'il était hors de question de passer devant cette maison et d'aller voir mon frère qui habite à 300 ou 400 mètres et de me dire c'est monsieur Glub ou monsieur Machin qui habite là. Je veux dire, il était hors de question pour moi de passer devant cette maison et de me dire qu'elle n'était plus à moi. Donc j'ai racheté les parts de mes frères et puis on s'est installé là et je ne le regrette pas. Je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, quoi.
Quel paysage pour cette Bretagne natale.
Le granit, surtout le granit, des routes qui serpentent et sur lesquelles c'est très très agréable de se balader, de faire du vélo. Puis c'est chez moi, c'est-à-dire que le cœur de Saint-Brice où j'habite n'a pas changé. Depuis que je suis enfant, c'est-à-dire que je suis arrivé là-bas en 1950 quand mon père a fait son premier emplacement de médecin, le cœur de Saint-Brice n'a pas changé. Alors il y a bien sûr des lotissements qui sont installés autour, mais tout ce qui est l'âme de l'endroit où j'habite n'a pas bougé. Ils ont eu, à travers les différentes municipalités, ils ont eu l'intelligence de garder le cœur et l'âme de Saint-Brice.
Oui, c'est ça, c'est cette idée de permanence en fait, qui va de pair avec le chez-soi. Nicolas Perrac, ces paysages, dans quelle mesure ont-ils façonné celui que vous êtes devenu, à votre avis ?
Je sais pas, je sais qu'il fallait peut-être que... Vous savez, ce qui est drôle, c'est que à l'époque où j'étais ado, à l'époque où j'ai commencé, j'aimais pas spécialement cet endroit. C'est-à-dire que c'était l'endroit où je venais tous les week-ends, parce que mes parents étaient séparés. Et Saint-Brice, ça voulait dire qu'à 5h, au milieu du film du dimanche soir, j'étais obligé de partir à Fougères prendre le car. Donc je voyais toujours une moitié du film, mais pas l'autre moitié. Et donc c'était pas un très bon souvenir, parce que c'était très court, ou alors c'était l'heure de vacances. Et pour moi, la Bretagne, c'était ça. Alors donc c'était pas forcément formidable. Et puis Paris, c'était toujours mieux, etc. Il a fallu que je fasse le tour du monde, il a fallu que j'aille m'installer partout pour me rendre compte que finalement, mes racines, elles étaient à Saint-Brice, elles étaient là.
C'est intéressant parce que la Bretagne, c'est aussi ça, c'est aussi l'ouverture vers l'ailleurs, vers le voyage. Et vous êtes un voyageur. L'écriture, quelle que soit la forme qu'elle prend, chanson, roman ou même photo, on y reviendra. Quel voyage est-ce que ça rend possible, l'écriture, Nicolas Perrac?
Mais ça rend toutes les écritures possibles. Ça, vous savez, l'écriture, c'est une poupée gigogne. Dedans, il y a à la fois des photos, il y a à la fois de la musique, il y a à la fois des mots. Donc, pour moi, l'écriture qui est inspirée par les voyages, elle peut se présenter sous différentes formes. Quand je fais une photo, je fais pas de chanson. Quand je fais une chanson, je fais pas de photo. Il y avait un magazine très célèbre qui disait le poids des mots, le choc des photos. Je pense que on a le choix à un moment donné où on fait une photo rapidement. Quand j'étais à Ouessant l'été dernier, tout d'un coup, il y avait des choses qui se présentaient. J'ai pris l'iPhone et j'ai commencé à faire des photos. J'aurais pu faire une photo, j'aurais pu faire une chanson. J'avais fait Tempête sur Ouessant il y a des années. Là, j'ai fait une photo. C'est l'écriture pour moi, c'est tout mélangé. C'est à la fois les mots, les notes et les images.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis le milieu des années 70, vous nous faites voyager. Et par tous les moyens, Nicolas Perrac, juste pour le plaisir, pour les auditrices et pour les auditeurs de Boomerang. C'est quand même ça.
So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow.
Puis c'est ça aussi.
Le vol de nuit s'en va. Destination Bahia. Buenos Aires, Cuba. Je pars. Prends soin de l'opéra. De la rue des Lilas. Dis-le que c'est.
Et puis vous me voyez venir.
Aragon n'était pas un mineur. Sartre était déjà bien engagé. Au café de Flore, il y avait déjà des folles. Et mon père venait de débarquer. Il hantait déjà les boutiquiers. Dans sa chambre, on croquait du café. Il ignorait qu'un jour j'en parlerai.
Votre père, Nicolas Perrac, très important, hein, dont vous racontez la vie dans le Paris de l'après-guerre. Quel homme est-ce que c'était ?
Mon père, c'était un homme très très singulier, c'est-à-dire qu'il était médecin de campagne. Quand il est arrivé dans le Coglet en 1950, il a tout fait pour que la laïcité s'impose dans cette Bretagne qui était hyper 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 catholique. Donc il a tout fait pour qu'il y ait une laïcité, il a tout fait pour que la culture ne soit pas réservée à la ville et qu'elle soit à la portée de la campagne et de la ruralité. Donc ils ont monté une association avec quelques autres personnes du coin pour que le théâtre vienne vers Saint-Brice, pour que la musique vienne vers Saint-Brice, pour que les expositions de peinture viennent vers la campagne aussi.
Et puis il écrivait aussi.
Et puis il écrivait. Il a été accepté chez Gallimard alors qu'il avait 20 ans ou 21 ans et il a pas signé à cette époque-là parce qu'il fallait qu'il fasse bouffer ma mère et moi. Et donc il est devenu médecin de campagne. Et toute sa vie, il a regretté de ne pas avoir signé. C'est pour ça qu'un jour, il m'a dit, c'est en risquant de rater ta vie à 20 ans que tu es sûr de la réussir.
Qu'est-ce que vous entendez par cette phrase ? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous ?
Bah, ça veut dire que réussir dans la vie, c'est une chose, c'est-à-dire gagner plein de thunes, ouais, ok. Mais je pense que réussir sa vie, c'est autre chose. Je pense que moi, j'ai réussi ma vie parce qu'un jour, je suis parti en Chine chercher une petite fille qui avait été abandonnée au bout de quatre jours et qui maintenant, à 19 ans, elle vient d'avoir son bac l'année dernière. Je pense que c'est la plus belle réussite de ma vie, en dehors de la musique, en dehors de tout. Je pense que réussir sa vie, c'est ça.
Mais il a fallu du courage, il a fallu de la détermination. C'est ça que nous dit cette phrase aussi.
Oui, il a fallu savoir faire le gros dos quand les choses n'étaient pas sympas. Il a surtout fallu être bien entouré, je pense que...
Il a fallu, Nicolas Perrac, braver la désapprobation aussi de votre mère, par exemple,
qui rêvait
que vous deveniez médecin.
Ma mère, elle a commencé à se dire mon fils est peut-être intéressant, parce que le doyen de la fac de médecine d'Abidjan est venu la voir un jour avec un article du journal Le Point, dans lequel il y avait une critique très, très sympa du premier album. Et c'est parce que le doyen, qui était cardiologue, venait lui dire que l'album était bien, que tout d'un coup, ça a pris une dimension.
Oui.
Et quand j'ai fait le théâtre de la ville, elle était avec mon père, qu'elle n'avait pas vu depuis des années, elle regardait les gens sortir, et elle disait, et c'est pour voir mon fils qu'ils sont tous venus.
Oui, je me souviens d'une chanson, d'un titre que j'aime bien, qui s'appelle « Je t'aimais, je n'ai pas changé », que vous lui avez dédié en 78, où vous écriviez « Je te faisais honte souvent, peut-être étais-je différent ». Honte. carrément.
Honte, bah c'est la honte, c'est vraiment un mot pour la chanson, mais je pense que profondément pour elle, c'était pas ça qu'elle voulait. Elle voulait que je sois Schweitzer, quoi. Elle voulait que je sois à l'embarrainé et que je joue de l'orgue la nuit et que je sois un médecin brillant. Je veux dire, c'était son obsession, mais on peut pas en vouloir aux mamans de se dire que suivre une carrière artistique, c'est pas forcément formidable.
Mais peut-être que vous l'êtes devenue en fin de compte. Et là, je pense à votre roman parce que le milieu médical, cette idée de dédier sa vie à soigner les autres, elle est assez présente dans votre roman à travers le personnage d'une jeune femme devenue star de cinéma malgré elle et qui au départ souhaitait devenir infirmière. Ça m'a pas échappé. Au fond, Nicolas Perrac, en quoi l'artiste, par ses films, par ses chansons, par ses romans, par ses photos, a-t-il lui aussi peut-être le pouvoir d'aider, de soigner, de réconforter, peut-être même de sauver, tiens?
Je sais pas, quand j'étais externe à la fac de médecine, je passais plus de temps à discuter avec un môme qui avait fait une tentative de suicide qu'à prendre mon pied à faire des numérations formules sanguines. Donc je pense que le dialogue et l'échange et d'émotions entre lui et moi étaient plus importants. Donc je pense que oui, je soignais sans soigner, c'est-à-dire que j'écoutais. Et je pense que les chansons, c'est vrai, l'écriture, c'est une façon quelque part de soigner les mots des autres par moment, quoi.
Et vous, qui avez consacré votre vie aux mots, Nicolas Perrac, quels mots vous ont sauvé, tiens?
Quels mots m'ont sauvé? Bah, je crois que les mots qui m'ont sauvé, c'est les mots d'un texte de Rudyard Kipling. Si tu peux rester digne en étant populaire. Je pense que c'est toujours ce qui m'a guidé. C'est-à-dire rester digne. Ne pas aller faire les choses juste pour l'argent ou parce qu'il faut absolument se montrer, quoi. C'est pas, ça a jamais été mon truc. J'ai jamais été amoureux de ma tronche au point de la montrer tous les week-ends à la télé. J'en ai rien à foutre de ça. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de partager les émotions avec des gens. Et je pense que ça, c'est une référence à la phrase de Kipling, ouais.
Vous savez qu'il y en a une qui est très populaire dans cette émission, sans doute la connaissez-vous. Digne, je ne sais pas, c'est évidemment la culture et son actualité, tous aux abris, et sauf qui peut. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 31 mai?
Ah, bonsoir, les héritiers de Molière, bonsoir la famille du théâtre.
Déclaration d'humour aux Molières hier soir aux Folies Bergères à Paris. La grande cérémonie de récompense du théâtre français a fait la part belle à la comédie. Grande gagnante de la soirée, présentée par Alex Vizorek, la pièce shakespearienne Comme il vous plaira, mise en scène par Léna Bréban, domine les débats et repart avec 4 Molières, dont celui du théâtre privé. Dans le reste du palmarès, 3 spectacles notamment raflent 2 prix chacun. La comédie Berlin-Berlin, le musical Les Producteurs et la pièce Le Voyage de Gulliver. Maintenant tous en salle, vous savez quoi faire.
Oh man. Look at my life, 24 and there's so much more.
Oldie but goodie, à l'occasion des 50 ans de Harvest, l'album culte de Neil Young sorti en 72, le 104 à Paris organise une belle soirée d'anniversaire furieusement folk, mais forcément électrisante. Sur scène, pas de Happy Birthday, mais des reprises des morceaux Old Man, Heart of Gold ou encore Alabama pour un joyeux aéropage d'artistes tricolores, parmi lesquels Albin de la Simone, Émilie Loiseau ou le groupe La Maison Tellier. C'est validé.
En faisant ce livre, je me suis lancée dans une forme de quête identitaire pour savoir quelles étaient mes racines.
Hier soir, lors d'une grande soirée de lettres et de musique animée notamment par un concert de la plus littéraire des popstars françaises, Juliette Armanet, le magazine Elle et ses lectrices ont dévoilé les lauréats de leur Grand Prix littéraire 2022. Sous le marrainage de Chantal Thomas, les 120 jurés de cette 53e édition ont récompensé la bouleversante carte postale d'Anne Berest dans la catégorie roman, l'infatigable Mathieu Palin pour Ne t'arrête pas de courir côté document et l'envoûtant La colline aux disparus de Tana French au rayon policier. Et enfin, en avant, le classique dès ce soir et jusqu'à dimanche, la commune de Saint-Denis dans le 93 organise son incontournable festival de musique classique. Déployé entre la Basilique et la Maison de la Légion d'honneur, la manifestation ouvre les festivités avec le Stabat Mater de Rossini, joué par l'Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France, sous la direction du maestro Myung-Hun Chung. Dans le reste de la programmation, cantate de Bach, récital Debussy, mais aussi création, signé Ibrahim Malouf et Gauthier Capuçon, et un concert symphonique de l'icône rap MC Solar, c'est du grand art. Et le chanteur Nicolas Perrac, chanteur et romancier, évidemment invité de Boomerang ce matin pour parler d'écriture, justement, puisque vous dites, Nicolas, que si vous n'aviez pas écrit, vous seriez sans doute jamais devenu chanteur. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire, somme toute ?
En fait, j'ai commencé à écrire quand j'étais au lycée et que j'avais envie d'envoyer des messages aux filles dont j'étais amoureux.
Ah bah d'accord.
Et à qui j'osais pas parler. Je n'osais pas parler, alors je me suis dit, je vais écrire des poèmes. C'était la meilleure façon, et ça marchait pas mieux, hein, ceci dit.
Mais vous vous souvenez des poèmes en question ou pas? Parce que souvent, on peut avoir des moments de solitude quand on les ressort du placard.
Non, je me souviens pas vraiment des moments de solitude. J'ai commencé à écrire vraiment, je pense, quand j'étais à Belle-Île, en vacances avec mon père et mes frères. J'ai commencé à faire des chansons à ce moment-là, mais c'était des chansons très très nulles. Et puis j'ai vraiment commencé à écrire d'une façon beaucoup plus quotidienne. Quand j'étais à Abidjan en deuxième et troisième année de médecine, j'écrivais à peu près entre une et deux chansons pendant les cours. C'est-à-dire que j'avais deux blocs rodia. J'avais un bloc sur lequel je prenais les cours et un autre bloc sur lequel j'écrivais les textes. Et j'ai écrit 350 chansons en 2 ans. Donc c'est-à-dire que j'étais pas très concerné.
À quoi ça tient une bonne chanson ou plutôt un bon texte? Pour vous avez fini par le savoir.
Ça tient à ce qui se passe comme ça dans la tête et dans l'atmosphère pendant 3 quarts d'heure. Quand j'ai écrit à mon père pendant un cours sur la maladie d'Addison, j'étais pas très concerné par la maladie d'Addison, donc je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Il s'est passé, je pensais à mon père, j'ai écrit le texte de mon père à la Pitié-Salpêtrière. Donc savoir ce que c'est une bonne chanson, c'est avant tout une mélodie au départ. C'est quelque chose qu'on entend sans l'écouter, et après on se penche sur le texte, si la mélodie est sympa.
En tout cas, votre premier roman, Qu'importe le boulevard où tu m'attends, il a été publié à 28 ans quand même. À l'époque, vous viviez encore au Québec. Je me suis demandé, au fond, pour vous, que permet le roman, que ne permet pas la chanson?
Le roman permet d'approfondir la psychologie des personnages. C'est-à-dire, quand vous commencez à parler de quelqu'un, vous avez le temps de faire le tour de la personne. Quand vous faites dans une chanson, vous avez 3 ou 4 minutes pour parler de plein de choses. C'est très très compliqué, quoi.
En tout cas, dans ce livre, et c'est intéressant, vous parliez déjà d'un autre art que vous évoquez également dans votre dernier livre, à savoir la photographie, que vous considérez, on l'a compris, comme une écriture à part entière. Qu'est-ce qu'on écrit avec une photo au juste, Nicolas Perraque?
On écrit tout. On écrit tout. Vous prenez les grands photographes ou pas les grands photographes d'ailleurs. Et c'est on fixe des instants, on fixe des émotions, on fixe des visages, on fixe des paysages. Je veux dire les correspondants de guerre fixent malheureusement à leurs risques et périls, et on le sait, l'actualité pour faire réfléchir les gens. Donc je veux dire, avec une photo, on fixe tout.
Et c'est cette idée, c'est ce désir, cette volonté de créer des images, parce que c'est central chez vous, hein, quel que soit l'art que vous employez. Quand est-ce qu'il est né? Quand est-ce que c'est apparu?
Au moment où je me suis dit que je serais pas comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire que jamais je me voyais faire du droit, de la pharmacie ou terminer ma médecine. J'ai fait médecine parce que ma mère avait très envie que je le fasse, mais je vous dis, mon père avait envie que je prenne le risque de faire autre chose. Donc je pense que c'est à ce moment-là que le mélange d'écriture musicale, littéraire et photographique est né, quoi.
Oui, c'est cette idée, j'ai l'impression, à vous entendre, qu'on propose une façon de regarder le monde. Je me demande, quand vous regardez le monde aujourd'hui, Nicolas Perraque, vous voyez quoi?
Je vois pas que des choses très très jolies. Je veux dire, comme disait mon père, parce que je reviens souvent à lui, il disait, je suis un optimiste qui voit la vie en gris ou un pessimiste qui voit la vie en rose. Ça me paraît tout à fait une très bonne définition de qui je suis.
C'est drôle, je pense tout de suite à parce que vous parlez de couleurs, à l'une de vos chansons qui s'appelle Ne me parlez pas de couleurs.
Oui, ça c'est la chanson qui aujourd'hui pourrait me définir. Oui.
C'est un hymne à la tolérance. De quoi elle est née, cette chanson?
Elle est née à Abidjan parce que elle est née à Montréal parce que je regardais la France par le petit œil de TV5 à l'époque, et je me disais il y avait une montée des extrémismes comme maintenant, et je me disais, c'est pas la France que j'ai envie de voir, je suis pas né là, je veux dire, c'est ça me ressemble pas. Donc j'ai eu envie d'écrire ça parce que je me disais, mais comment est-ce qu'on peut juger les gens par rapport à leur couleur, par rapport à leur religion, par rapport à leur façon d'aimer, par rapport c'est impossible pour moi.
C'est un titre qui nous parle du regard de l'autre, effectivement. Regarder, c'est quelque chose qui s'apprend pour vous?
Je ne sais pas si ça s'apprend. Moi, ce que je sais, c'est que je n'ai jamais, j'ai jamais été autrement. Donc, je l'ai sûrement appris à travers les réflexions de mes parents, quoi.
Et à travers le cinéma aussi, peut-être.
Le cinéma, je pense que juste derrière la musique ou au même niveau que la musique, il y a le cinéma. Oui, je suis un fondu de cinéma. Oui.
Parce qu'il est beaucoup question, de cinéma dans votre nouveau livre, Nicolas Perraque, dont le narrateur est cinéaste, l'héroïne comédienne, et qui entretient une certaine ressemblance avec une dénommée Audrey Hepburn. Pourquoi elle?
parce que Audrey Hepburn était représentée pour moi l'élégance, la classe, le charisme, je sais pas, le talent, c'était voilà, cette espèce de beauté qui ne cherche pas le bling bling, qui ne cherche pas le paraître, mais qui était quoi.
C'est drôle, ça me fait penser à Pierre Lescure, futur ex-président du Festival de Cannes, merveilleuse personne et invité de Boomerang il y a deux semaines, qui nous disait justement qu'elle était pour lui, Audrey Hepburn, l'incarnation de la grâce.
Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je dis. C'est vraiment, c'est des gens qui sont beaux sans avoir à tout prix avoir envie de le montrer, quoi. Ils sont beaux parce qu'ils sont beaux, ils passent. Voilà, on sait qu'ils sont là, quoi.
Alors c'est ça la beauté.
Oui. Je pense que c'est exister sans avoir besoin de dire j'existe, quoi. Vous rentrez quelque part et les gens savent que vous existez, quoi.
Et c'est pas souligné, surtout.
C'est surtout pas souligné.
On va reparler, Nicolas Perrac, ensemble, d'images, de cinéma, de grâce, juste après, pour vous faire plaisir. Moon River, par Audrey Hepburn, dans le film Breakfast at Tiffany's, Diamant sur canapé de Blake Edwards en 1961. Vous êtes sur France Inter, avec Nicolas Perrac, vous écoutez Boomerang, évidemment, et tout va bien.
Style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way to drift. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend.
Breakfast at Tiffany's, Breakfast at Tiffany's. Moi, je vous le dis, il est beaucoup moins Truman Capote que Monsieur Seguin, ou gourou elfique, l'oreille à l'écoute, l'œil potion magique derrière ses verres rectangulaires, le cheveu long et attaché façon samouraï, le sourire dent du bonheur, il est sérénité, bienveillance et cure de jouvence, avec son chapeau Stetson, le chanteur et romancier Nicolas Perrac, invité de Boomerang pour son roman, sans oublier qu'un jour on s'est aimé en librairie après-demain. C'est un livre qui, à travers les retrouvailles d'un homme et d'une femme qui se sont aimés, sans jamais vraiment oser se l'avouer, réfléchit aussi à la façon dont le succès peut changer une vie. Ça m'a intéressé. À quel moment de votre carrière est-ce que vous avez senti que le succès était là, Nicolas ?
Au moment où les gens autour de moi ont changé. C'est-à-dire que vous changez pas, vous pensez soi-disant avoir du succès, mais vous rendez pas compte. C'est-à-dire qu'être balancé de la fac de médecine au studio de radio, c'est un truc qui est complètement surréaliste, quoi.
C'est pas normal, ouais.
C'est totalement ingérable. Donc,
en quoi les gens ont changé, justement?
Les gens changent parce qu'ils pensent que vous êtes différent, parce qu'on vous voit à la télé, on vous entend à la radio. Donc, je crois que c'est pas vous qui prenez la grossette, c'est les gens qui ont de plus en plus de mal à venir vous aborder.
Et surtout qu'en plus vous avez changé de nom. Comment est-ce que vous êtes devenu Nicolas Perrac?
Parce que Jean-Jacques Tazartès, c'était très difficile à dire entre la poire et le fromage. Donc,
Jean-Jacques Tazartès.
Ouais, c'est mon nom normal, ça.
Ouais.
Quand on m'appelle Jean-Jacques, je sais que je suis à Saint-Brice, parce que les gens de Saint-Brice m'appellent Jean-Jacques. Ils me connaissent depuis 1950. Donc.
Et pourquoi Nicolas Perrac?
Parce que Nicolas, c'est le prénom que j'avais envie d'avoir, et Perrac, c'était un nom que j'ai trouvé dans les hommes de bonne volonté, je crois. Voilà, j'ai trouvé Nicolas Perrin qui était bien.
Dites-moi que vous avez participé au jeu de la chance. Ouais. Dans Télé Dimanche, vous étiez qui? Vous étiez Jean-Jacques ou Nicolas?
J'étais Jean-Jacques Tadartès. Ah. Donc vous aviez raison, en fait.
Bah oui, c'est ça. Parce que je vous demandais auparavant, ouais, est-ce que vous avez déjà chanté?
Ouais, c'était présenté par Jean Poiret. C'était, j'étais Jean-Jacques Tadartès. Mais d'ailleurs, il avait dit Jean-Jacques Tadarté.
Alors le problème, c'est pas qu'il ait mal prononcé votre nom, ça arrive à des gens très bien, mais on m'a appelé Traquenard toute ma vie. Sans doute à raison. Ce télécrochet, il se trouve que vous l'avez pas gagné, Nicolas, comment ça se fait?
Parce que c'était un peu truqué, je pense, qu'il fallait, il fallait être un peu conscient de ça. Donc même si Saint-Brice a envoyé plein de cartes postales, je pense que c'était pas prévu comme ça.
C'était truqué, vous pensez vraiment?
Je pense que ça devait être truqué un peu, ouais.
Quel regard est-ce que vous portez sur le jeune homme que vous étiez alors?
Oh, j'avais une envie quelqu'un qui écrivait, quelqu'un qui faisait les choses différentes. Je me battais avec ma mère parce que elle voulait rien savoir. Qui j'étais, je m'étais fait couper les cheveux à ras parce que sinon j'aurais pas eu une guitare 12 cordes. Enfin voilà, j'étais ça, quoi.
Et alors, parce que ça a été quand même une déconvenue télévisuelle de pas gagner. Est-ce que ça vous a permis quand même quelque chose de rentrer dans l'industrie?
Ça m'a permis de rencontrer Jacques Poisson, qui était le directeur artistique de Gilbert Bécaud aux éditions Rideau Rouge, de rencontrer Julien Clerc et de pouvoir me rendre compte que j'étais complètement bouleversé par l'écriture d'Étienne Rodagil. Donc c'est parti de là, en fait.
Oui, alors c'est intéressant parce qu'effectivement, assez rapidement, vos talents de parolier ont été plébiscités. Vous avez écrit pour des artistes comme Marie Laforêt, Patrick Juvet, plus tard pour Johnny Hallyday. Écrire pour les autres, quel exercice est-ce que c'est?
Le seul exercice, c'était pour Hallyday, parce que Pierre Billon est venu me voir un jour en me disant « Johnny fait un spectacle au Palais des Sports, il ferait une chanson à tel endroit, etc. » Donc là, c'était une commande. Sinon, les autres chansons, c'est les chansons que j'avais écrites pour moi. Et puis, je les ai données à d'autres personnes, mais j'ai jamais écrit sur mesure. Je trouve que écrire sur mesure, c'est assez compliqué, quoi. Je suis pas pharmacien, hein. C'est-à-dire que je suis pas capable de dire « Il vous faut là ceci ou cela ». Donc, c'est les chansons, c'est le hasard. Quand Placido Domingo a enregistré aux États-Unis « Les eaux du Mékong » en anglais, qui était un ratage absolu, c'est parce que son directeur artistique a aimé la chanson, quoi.
Mais au fond, c'est intéressant, vous auriez pu vous contenter de rester dans l'ombre, Nicolas Perrac, devenir interprète. Pourquoi ça a été important à un moment donné?
Parce que quand on écrit des choses et qu'on se dit que personne en veut, la meilleure façon, c'est de les chanter soi-même. Si on est à peu près capable de chanter juste, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Et surtout quand on a envie de faire quelque chose de différent.
Et pour rentrer en communication aussi directement avec les gens?
Moi, j'adore ça. C'est pour ça que depuis 6 ans, je fais les acoustiques improvisées. C'est-à-dire des concerts où je suis tout seul avec 3 guitares. Et là, on revient aux bases de l'écriture. On peut plus dater les chansons. On peut plus dire « So Far Away » a été écrit en 75. Ouais. J'ai pu l'écrire ce matin. Ouais. Parce que c'est juste guitare-voix. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion. C'est être assis sur les genoux des gens et pour pouvoir leur dire des choses à l'oreille, si j'ai envie. Et il y a personne à la fin qui viendra vous dire « Oh bah, il y avait trop de basses ou trop de batterie ou ceci ou cela ». Même si vos musiciens sont formidables, quand vous êtes tout seul avec une guitare ou avec un piano, il y a une vraie émotion, on revient aux bases de l'écriture.
Pourtant, vous êtes timide, non?
Oh, je suis très timide, oui.
C'est facile.
Je suis très timide, je suis un ours un peu. C'est sûr que les gens qui me connaissent vous diront que c'est un ours. Il aime bien rester dans sa cage à Saint-Brice-en-Cogles. Là, par exemple, pour venir ici, il a fallu me décongeler, quoi. Mais je savais que Augustin Trapenard, pour moi, c'est une référence. Donc, il n'y avait pas beaucoup à faire pour me décongeler.
Cela dit, je me suis demandé, écrire des chansons, peut-être que justement, d'une certaine façon, c'est s'effacer derrière des mots, derrière une mélodie. C'est pas forcément se mettre en avant.
C'est une façon d'exister. On peut très bien écrire des chansons et ne pas avoir envie de se mettre en avant. Moi je connais des gens qui font des chansons magnifiques. Étienne Rodagil écrivait des textes qui étaient imparables et il n'était pas en avant. Mais qu'il le veuille ou non, il était quand même en avant parce que le Julien Clerc de l'époque, il était porté par Étienne Rodagil. Donc Étienne Rodagil, même sans le vouloir, était en avant.
Et puis je pense à Michel Berger aussi.
Michel Berger, c'était mon ami. On était vraiment
extrêmement
amis,
proches.
C'est lui qui m'a appris une certaine forme d'élégance. Je veux dire, il était capable d'avoir ce talent fou et l'élégance absolue, savoir ne jamais parler de lui, quoi. Jamais, 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 jamais.
Vous dites donc parfois que sa mort a changé votre vie.
Oui, parce qu'il y avait des choses que j'avais envie de lui dire. J'ai appris sa mort quand on était en voyage de repérage au Canada et quand on est rentré, Michel venait de de disparaître et il y avait plein de choses que je voulais lui dire parce que c'était quelqu'un, dès que je l'appelais, il décrochait son téléphone pour répondre à mes questions, donc c'était très important le dialogue et savoir que quelqu'un ne peut plus vous répondre, c'est comme quand ma mère est partie, c'est la notion de jamais plus qui s'installe et ça je trouve ça très 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 lourd quoi.
Et puis c'est quelqu'un qui vous a nourri, je suppose, musicalement aussi.
C'est-à-dire que c'était un mélodiste hors pair. C'était hors pair. C'était la grâce. C'était le choix des harmonies. C'était le choix des interprètes parce qu'il a fait des chansons formidables pour Françoise Hardy. Vous écoutez Message personnel, ça a pas pris une ride. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont Tennessee pour Johnny. C'est quelque chose qui, dans 50 ans, sera toujours une sublimerie, quoi.
Et puis des chansons pour France Gall, incroyable.
Hein. Ah bah oui, non, mais bon, je veux dire, on va pas tous les passer en revue, mais c'est vrai que le talent de Michel Berger est quelque chose qui malheureusement est un peu sous-évalué aujourd'hui, mais c'est quelqu'un d'hyper important. Quoi.
Et le talent de Jean Ferrat ?
Et qui ça ?
Le talent de Jean Ferrat.
Ah ben Jean Ferrat, oui, c'est je chante une chanson de Jean Ferrat sur scène par moment quand ça me prend quoi.
Bah non, parce que vous me voyez venir, vous avez une guitare à côté de vous. Moi, je suis désolé, j'ai envie d'entendre Jean Ferrat là.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors vous le voulez.
Alors attendez, alors vous nous expliquez qu'est-ce que vous allez chanter ?
Je vais chanter une chanson, si j'y arrive. Attendez.
Prenez votre temps, on est bien là.
C'est parce que le truc est coincé là.
Ah oui, ça nous arrive ça. Ça vous fait pas mal quand même.
Non, c'est bon.
C'est bon.
Ouais. C'est une chanson que je trouve magnifique parce qu'elle est simple, parce qu'elle est, elle dit plein de choses et que je chante de temps en temps en concert quand ça me prend.
Elle s'appelle Ma Môme.
Et elle s'appelle Ma Môme.
Ouais.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas de lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On part pas sans Paul Devance, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est bien. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux, et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville sans sommeil, chez nous y a du sommeil, du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine, on dirait. On regarde tomber le jour, et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle bosse pas pour les magazines, elle travaille en usine.
Merci Nicolas Perrac, Ma Môme, Jean Ferrat. C'était une chanson de 1961 que vous chantez ce matin. Merci aussi à Julien Dumont, à la technique et à la prise de son. Et merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Sans oublier qu'un jour on s'est aimé, publié aux éditions L'Archipel et sort après-demain jeudi.